Construire un feu, de Jack London. L'aube, ce jour-là, était froide et grise, très grise et très froide, lorsque l'homme, quittant le large tracé que dessinait le Yukon gelé, gravit le haut coteau qui s'élevait sur une des rives du fleuve et où se dessinait confusément une piste étroite qui s'en allait vers l'est, à travers l'épaisse futaie des sapins. Le coteau était à pic. Une fois arrivé au sommet, l'homme fit une pause pour reprendre haleine, puis, machinalement, il regarda sa montre. Elle marquait 9 heures. Il n'y avait pas de soleil, pas un soupçon de soleil, quoique aucun nuage ne fût au ciel. Le firmament était pur, et cependant un impénétrable voile semblait s'étendre sur toute chose. De ténues et fines ténèbres qui n'étaient pas la nuit, mais l'absence du soleil, tamisaient le plein jour et l'obscurcissaient. De cela, l'homme n'était pas inquiet. Depuis bien des semaines, il n'avait point aperçu le soleil. Il savait que beaucoup d'autres devraient s'écouler encore avant que le globe joyeux, rompant la longue nuit polaire, commençât, pendant quelques secondes tout d'abord, à émerger vers le sud, au-dessus de la ligne d'horizon. Mais, se retournant, l'homme jeta un regard en arrière, vers la longue piste qu'il venait de parcourir. En dessous de lui s'étendait le Yukon, large d'un mille et prisonnier sous 3 pieds de glace. Et cette glace elle-même était ensevelie sous 3 pieds de neige. La neige, immaculée, ondoyait en molles ondulations, là où elle recouvrait les blocs chaotiques qui s'étaient formés lors du gel du fleuve. Vers le nord et vers le sud, aussi loin que l'œil pouvait porter, s'étendait cette blancheur infinie sur laquelle une ligne grisâtre, mince comme un cheveu, serpentait en contournant les îles, recouvertes de noirs sapins qui égrenaient sur le fleuve leur chapelet. Cet imperceptible trait était celui que venait de suivre l'homme, la piste connue qui, longue de 500 milles vers le sud, s'en allait dans cette direction, vers les passes de Chilkoot, vers Dieha et le Pacifique. Vers le nord, la piste du fleuve conduisait à Dawson, distant de 70 milles, puis, mille après mille, vers le détroit de Bering et le fort Michel sur la mer polaire. Dawson était la capitale du Klondike et du Pays de l'Or. Mais ni la ligne mystérieuse de l'horizon lointain, ni l'absence du soleil, ni le froid terrible qui sévissait, ni toute cette ambiance de fantastique désolation ne troublaient l'homme au-delà de ce qu'il était nécessaire. Ce n'était point qu'il fût autrement blasé de ce spectacle. Il était un nouveau venu, un Tchekako, et c'était son premier hiver sur la terre du Nord. Mais nulle imagination superflue ne venait jeter la peur dans son cerveau. D'esprit énergique et net devant les réalités, il ne s'attardait point à philosopher sur elles. En face de la formidable nature qui l'étreignait, il ne méditait point sur la fragilité de l'être humain, sur la place qui lui a été assignée dans l'univers, sur les limites extrêmes du chaud et du froid qui lui permettent d'y vivre ou l'y condamnent à mourir, et, s'il succombe, sur l'immortalité de son âme. 50 degrés Fahrenheit sous zéro ne l'impressionnaient pas plus, en eux-mêmes, que 80 degrés. Tout ce qui l'intéressait dans un pareil froid, c'est qu'il en était incommodé. La morsure du gel faisait mal, et il importait de s'en préserver en fourrant ses mains dans d'épaisses mitaines, en rabattant sur ses oreilles les pattes de sa casquette, en protégeant ses jambes et ses pieds dans des bas et dans des mocassins épais. 50 degrés sous zéro, c'était un fait, et rien de plus. Tournant donc de nouveau le dos au Yukon, il s'apprêta à continuer sa route. Afin de se renseigner approximativement sur le froid qu'il pouvait faire, il cracha. Il entendit un bruit aigu, pareil à une petite explosion, ce qui le fit un peu tressaillir. Il cracha de rechef et, pour la seconde fois, avant de choir sur la neige, la salive claqua dans l'air. L'homme n'ignorait pas qu'à 50 degrés sous zéro, la salive claquait au moment où elle touchait le sol. Mais pour avoir ainsi explosé dans l'air, c'est que le froid, sans aucun doute, dépassait 50 degrés. De combien ? Il ne le savait pas, et que lui importait, en somme. Tout ce qui l'intéressait, c'était de rejoindre sans encombre d'autres hommes qui l'attendaient sur la fourche gauche de l'Anderson Creek, petit affluent du Yukon, où se trouvait leur « lot de chercheurs d'or ». Les camarades avaient gagné directement le but, par une piste de traverse, tandis que lui-même s'était détourné de son chemin afin d'explorer la vallée du Yukon et de vérifier si les forêts de sapins de ses îles et de ses rives fourniraient au printemps prochain des rondins de taille voulue pour l'exploitation de la mine. D'après ses prévisions, il rejoindrait ses compagnons au campement vers 6 heures du soir. La nuit serait déjà tombée. Mais il se retrouverait en société, un feu joyeux crépiterait et un bon souper bien chaud l'attendrait. Pour ceux qui étaient du déjeuner, il portait sur lui le nécessaire. Il posa la main, en y songeant, sur une grosse bosse qui faisait saillie sous son vêtement. Là, sous la chemise, à même sa peau nue, était un paquet de biscuits enveloppé dans un mouchoir. C'était le seul moyen d'empêcher les biscuits de geler. Il se sourit à lui-même, satisfait en songeant que chacun de ces biscuits, après avoir été fendu en deux, avait été trempé dans du lard fumé, préalablement fondu et renfermé, comme un sandwich, entre ces deux morceaux rapportés, une tranche grillée de ce même excellent lard. L'homme s'engouffra sous les grands sapins. La piste qu'il suivait était à peine tracée. Une couche de neige était tombée depuis le passage du dernier traîneau. Et il se réjouissait d'aller à pied, légèrement, sans autre charge que son déjeuner dans sa chemise. Ce froid, pourtant, le surprenait. De sa main, sans la sortir de la mitaine, il se frotta le nez, qui était gourd, puis la saillie de ses pommettes. Une barbe rousse abondante lui encadrait tout le visage. Mais les poils drus ne protégeaient point les pommettes qui saillaient, ni le nez qui, comme un cap, se projetait en avant, agressif, dans l'air glacé. Sur les talons de l'homme trottait un chien, un énorme husky du pays, le type de vrai chien loup à la robe grise et dont la nature, ni l'aspect, ne semblait guère différer de ceux de son frère, le loup sauvage. L'animal était déprimé par le froid prodigieux. Il savait que ce n'était pas là un temps pour voyager. Son instinct l'en avertissait plus sûrement que le raisonnement n'avait su le faire pour l'homme. Celui-ci eût-il eu un thermomètre ? Ce n'était pas, en effet, 50 degrés, ni 60, ni 70, mais 75 au-dessous du point de congélation que l'appareil eût marqué. Le chien ignorait tout des thermomètres. Sa notion du froid n'avait point la précision des calculs humains. Mais, en son cerveau rudimentaire, une crainte vague naissait, qui l'écrasait sous sa menace. La bête, angoissée, se glissait derrière l'homme, silencieuse, interrogeant ardemment tous ses gestes, comme si elle s'attendait à tout moment à le voir s'en revenir vers le dernier campement ou, s'arrêtant, chercher quelque part un abri pour y construire un feu. Le husky connaissait la nécessité du feu par un tel froid. En l'absence de la flamme bienfaisante, il eût du moins souhaité se creuser un trou dans la neige pour s'y tapir à l'abri de l'air. Son haleine congelée avait poudré d'un givre blanc et cristallin ses bajoues, ses sourcils et son museau. La barbe rousse de l'homme et ses moustaches étaient congelées, elles aussi, mais plus solidement. Le dépôt de givre s'y transformait en un dépôt de glace, dont l'épaisseur augmentait à chaque bouffée de l'humide et tiède respiration qu'il exhalait. L'homme, de plus, chiquait, et la muselière de glace qui lui encastrait les lèvres les rendait à ce point rigides qu'il lui était impossible de les faire jouer pour expectorer le jus du tabac. En sorte que celui-ci, mêlé à sa salive, ruisselait sur sa barbe en stalactites qui avait la couleur brunâtre et la dureté de l'ambre et dont la longueur augmentait sans cesse au-dessous de son menton. Si l'homme était tombé, sa barbe se fût brisée en morceaux, mais il se souciait peu de cet appendice. Tous les chiqueurs payaient au froid le même tribut dans le Northland. Deux fois déjà, il s'était trouvé dehors avec des sautes de froid de 50 et de 60 degrés du thermomètre à l'alcool et le même phénomène s'était produit. Plusieurs milles durant, l'homme poursuivit son chemin à travers de vastes forêts plates. Il traversa ensuite un grand marécage gelé, semé de bouquets d'arbustes noirs et, arrivé dans une vallée, il descendit jusqu'à la berge d'un petit cours d'eau glacé. C'était l'Henderson Creek. Il consulta sa montre, 10 heures. Il savait qu'il marchait à une allure de 4000 à l'heure, et il en conclut qu'il serait arrivé pour midi et demi, à la première fourche de la rivière, distante encore de 10 000. Il décida que, pour célébrer cet heureux événement, il mangerait son déjeuner, une fois arrivé à ce point. Le chien, découragé, la queue pendant entre les jambes, reprit sa place derrière les talons de son maître, qui, de sa marche légèrement balancée, se mit à suivre le lit de la rivière. Plus profonde, la piste laissée par les derniers traîneaux qui avaient passé là était encore visible. Mais la neige avait recouvert toute trace de pas humains. Il y avait un mois que personne n'avait remonté ni descendu le silencieux vallon. L'homme allait toujours, d'un pas régulier. Son cerveau ne remuait pas de réflexions inutiles. Il ne pensait à rien, sinon au déjeuner dont l'instant approchait et qu'à 6 heures du soir, il aurait retrouvé ses camarades. Il ne disait rien non plus, pour la raison majeure qu'il n'y avait personne avec qui engager la conversation. Et d'ailleurs, eût-il voulu parler, qu'il ne l'aurait pu, par l'effet de cette muselière de glace qui lui fermait la bouche. Il se contentait de mâcher uniformément son tabac et d'allonger ainsi sa barbe d'ambre. La seule pensée qui lui revenait parfois, c'est qu'il faisait réellement froid, que jamais encore il n'avait connu une pareille froidure. Tout en cheminant, il frottait automatiquement de ses mitaines, tantôt d'une main, tantôt de l'autre, ses pommettes et son nez. Mais il avait beau frotter, la circulation ne semblait pas se rétablir. Dès qu'il cessait la friction, nez et pommettes redevenaient inertes. Il était certain maintenant, et il s'en rendait compte, qu'il avait une partie du visage gelée. Et il regrettait de ne s'être point fabriqué avec du cuir un masque spécial retenu par des courroies tel que celui que portait Bud, son camarade, lorsque la température baissait brusquement. Mais bah, le malheur n'était point considérable. Avoir le nez et les joues gelés était fâcheux, assurément, et fort douloureux par la suite. Mais on n'en mourait pas, et c'était le principal. L'homme allait, et la seule préoccupation de son cerveau indifférent était d'observer sans trêve, et très attentivement, la piste qu'il suivait, les crochets et les courbes de la rivière gelée, les amas de bûches entraînés par les inondations printanières, et qui formaient aujourd'hui de petits monticules neigeux qu'il convenait d'éviter. Il scrutait le sol, chaque fois presque avant d'y poser le pied. Il y eut un moment où il fit soudain un écart, comme un cheval qui prend peur, et où, se reculant de plusieurs pas, il contourna à distance la piste tracée. La rivière était entièrement gelée jusqu'à son lit. Il ne l'ignorait pas et connaissait qu'aucun cours d'eau ne saurait conserver une goutte liquide durant l'hiver arctique. Mais il savait aussi que des sources souterraines jaillissaient, en bouillonnant, des flancs des collines et se frayaient leur course sous la neige pour rejoindre sous la glace le lit de la rivière et y continuer leur chemin. Même durant les plus grands froids, ces sources, que la neige et la glace protégeaient du contact de l'air, ne se prenaient jamais. Un grave danger en résultait, et elle constituait de vraies chausse-trappes. La couche neigeuse qui les recouvrait et dissimulait était épaisse, parfois de 3 pouces seulement, parfois aussi de 3 pieds. Il arrivait encore qu'une série de nappes d'eau et de couches de glace se superposaient sous la neige. En sorte que si la carapace supérieure venait à s'effondrer, celle qui suivait en faisait autant, et quiconque tombait dans l'un de ces traquenards était exposé à se trouver dans l'eau jusqu'à mi-corps. Telle était la cause de l'effroi qui, tout à l'heure, s'était emparé de l'homme. Il avait senti la glace se dérober sous ses pas et entendu sous lui un craquement sinistre. Or, par cette température, avoir seulement les pieds mouillés pouvait être cause de graves et dangereux désagréments. Le moins pour lui, qu'il en pût résulter, était de retarder son voyage en l'obligeant à construire un feu qui lui permît de se déchausser et de sécher à la flamme ses bas et ses mocassins. L'homme s'arrêta de marcher pendant un instant et observa la configuration de la vallée. Il conclut que les sources devaient venir de la droite. Tout en continuant à se frotter de temps à autre le nez et les pommettes pour tâcher d'y ramener le sang, il reprit sa route en appuyant vers la rive gauche du fleuve. Il allait avec précaution, éprouvant du pied à chaque pas la solidité de la glace. Puis le sol parut redevenir plus ferme et le danger disparaître. Il prit dans une de ses poches une nouvelle chique, la glissa entre ses lèvres et, accélérant son allure, reprit sa marche à 4000 à l'heure. Pendant les 2 heures qui suivirent, il rencontra encore plusieurs de ses trappes. La neige, légèrement affaissée à ces endroits, y prenait une apparence cristalline particulière qui l'avertissait du péril. Mais, comme un passage lui paraissait plus spécialement suspect, il contraignit le chien à marcher devant lui. L'animal, de plus en plus collé à ses talons, s'y refusa tout d'abord. Il fallut que l'homme le menaçât et le poussât en avant. Et de fait, le chien qui se hâtait n'avait point parcouru la longueur d'une 20aine de pas qu'il enfonçait soudain et culbutait dans un trou d'eau. Il se remit vivement sur ses pattes et s'éloigna vers un sol plus solide. Les pattes du chien avaient été mouillées et l'eau s'y était instantanément transformée en glace. L'animal, se laissant tomber sur la neige, commença aussitôt à se lécher, puis, cette opération étant insuffisante, à enlever à coups de dents les lamelles de glace qui pendaient de tous ses poils. Un mystérieux instinct lui commandait d'agir ainsi. L'homme, qui savait qu'autrement la bête ne pourrait plus continuer son chemin, vint à son secours. Il sortit de la mitaine sa main droite et arracha aussi les glaçons. Il n'exposa pas ses doigts plus d'une minute à la morsure de l'air et fut stupéfait de l'engourdissement rapide dont il les était saisi. Oui, certes, il faisait grand froid. Il remit en hâte sa mitaine et se frappa violemment la main contre la poitrine. À midi, la clarté atteignit son apogée. Le soleil, cependant, dans sa course hivernale, était trop loin vers le sud pour pouvoir surgir à l'horizon arctique. Le ciel était toujours pur et sans nuages, et pourtant le corps de l'homme ne projetait aucune ombre sur l'Anderson Creek. À midi et demi précis, l'homme arrivait à la première fourche de la rivière. Il était satisfait de la vitesse à laquelle il avait marché. S'il la maintenait, il aurait certainement, à 6 heures, rejoint ses camarades. Il déboutonna sa veste et sa chemise pour sortir son déjeuner. Cet acte indispensable ne lui prit pas plus d'un quart de minute. Mais ce court laps de temps avait été suffisant pour que, de nouveau, l'engourdissement s'emparât de ses doigts exposés à l'air. Il tint bon, cependant, et sans remettre sa mitaine, par 12 fois, avec énergie, il frappa ses doigts contre sa jambe. Puis il s'assit sur une souche d'arbre recouverte de neige afin de manger. Une vive piqûre s'était tout d'abord fait sentir dans ses doigts, tandis qu'il les battait contre sa jambe. Puis, si brusquement cette piqûre avait cessé qu'il s'en étonna. Les doigts étaient comme insensibles, et il n'avait pas encore réussi à porter le biscuit à ses lèvres et à y mordre. Il frappa encore ses doigts sur son mollet à plusieurs reprises, et, les renfonçant dans sa mitaine, découvrit son autre main. De celle-ci, hâtivement, il leva le biscuit vers sa bouche. Mais sa bouche était close par la muselière de glace qui réunissait sa barbe à sa moustache, et vainement il tenta de croquer tant soit peu de nourriture. Il avait oublié de construire un feu pour se dégeler, et à cette pensée qui lui revint soudain, il se mit à ricaner en songeant combien il était sot. Mais tout en ricanant, il remarqua que les doigts de sa main gauche, qui demeuraient exposés à l'air, étaient en train de s'engourdir, comme l'avaient fait ceux de sa main droite. Il remarqua encore que la piqûre qu'il avait, en s'asseyant, ressentie à ses deux orteils, avait disparu. La chaleur était-elle revenue ou, au contraire, était-ce l'effet accru du froid? Il se le demanda. Il remua ses pieds dans ses mocassins. Les deux orteils étaient gourds. Il remit précipitamment sa main gauche dans la mitaine et se leva, tout de même un peu effrayé. Il battit la semelle jusqu'à ce qu'il sentît de nouveau une sensation de piqûre à ses doigts de pied. Il faisait froid. Évidemment, très froid. Le vieux bonhomme qui avait sa cabane sur la rivière du Soufre et avec qui il avait causé avant de se mettre en route n'avait pas menti en lui disant combien il faisait froid parfois dans le pays. Il s'était alors moqué de lui. Cela prouvait qu'on ne doit jamais inconsidérément juger de ce qu'on ignore. Il n'y avait pas d'erreur possible. Il faisait froid. Et l'homme continuait à marcher de long en large, à frapper des pieds, à battre des bras, jusqu'à ce qu'enfin, la circulation s'étant rétablie, il se rassura. Alors, il entreprit de construire son feu. Sous les broussailles qui bordaient la rivière et où la crue du printemps dernier avait apporté par paquets des brindilles aujourd'hui desséchées, il trouva le bois qui lui était nécessaire. Il établit avec soin un petit foyer, puis tira de sa poche une allumette, en même temps qu'un morceau d'écorce de bouleau sur lequel il la frotta. Le bouleau s'enflamma plus rapidement encore que ne l'eût fait un bout de papier et le feu jaillit en sifflant. L'homme, se courbant sur la flamme, fit fondre la glace qui lui recouvrait la figure. Puis, devant la bienfaisante chaleur, il sortit ses mains de ses mitaines et se risqua à manger ses biscuits. Il avait dominé le froid. Le chien, satisfait lui aussi, s'allongea tout près du feu, le plus près qu'il lui fut possible, sans se roussir les poils. Son déjeuner terminé, l'homme bourra sa pipe et la fuma tranquillement. Puis il renfila ses mitaines, rabattit sa casquette sur ses oreilles et reprit la piste sur la fourche gauche de l'Anderson Creek. Le chien, désappointé, quitta le feu en rechignant. Cet homme, songeait-il, ne savait réellement pas ce qu'était le froid. Effectivement, aucun atavisme ancestral n'avait sans doute inculqué à l'homme la notion du froid, du vrai froid, du froid à 107 degrés sous zéro. Il n'en était point de même du chien. Ses ancêtres, à lui, lui avaient transmis leur expérience. Il n'ignorait pas qu'il est mauvais de s'aventurer au loin par une pareille température. C'est le moment, bien au contraire, de se coucher douillettement au fond d'un trou, dans la neige, et d'attendre, pour en sortir, qu'un rideau de nuages, s'étendant entre la terre et le ciel, vienne intercepter le rayonnement atmosphérique d'où provient ce grand froid. Il n'existait entre le chien et son compagnon humain aucune intimité d'ordre affectif. L'un était l'esclave de l'autre. La seule caresse qu'il en recevait était celle de la mèche du fouet. Et toutes les bonnes paroles qu'il connaissait étaient ces bruits de gorge, rauques et menaçants, qui annonçaient les coups. Aussi, le chien, en aurait-il eu les moyens, n'eût fait aucun effort pour communiquer à son compagnon ses appréhensions. Le bien-être de l'homme ne l'intéressait aucunement, et c'était pour lui-même qu'il souhaitait demeurer auprès du feu. Mais l'homme siffla et parla au chien d'un claquement de fouet. Le chien reprit sa place au talon de son maître et continua à le suivre. Le marcheur renouvela sa chique. La barbe d'ambre recommença à se former, tandis que, non moins rapidement, son haleine congelée saupoudrait de givre ses moustaches, ses sourcils et ses cils. Sur la fourche gauche de l'Henderson Creek, les sources semblaient moins nombreuses, et pendant une demi-heure, l'homme n'en aperçut aucun indice.